l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence à Belmont-sur-Ance, 93.1.
Mercredi 24 décembre, c'est un bonheur et un plaisir de finir cette matinée en votre compagnie. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h avec une émission encore un petit peu spéciale aujourd'hui. Hier, je vous avais fait découvrir, et d'ailleurs je remercie l'auditrice qui nous a appelé pour nous remercier de ce beau concert de Noël qui était donné par les chanteurs pyrénéens de Tarbes. Aujourd'hui, émission spéciale avec, dans quelques instants, vous l'entendrez, c'est Monseigneur Lacombe, l'archevêque du diocèse d'Auch, qui sera notre compagnie au micro d'Anne-Rose Jankovic. Et bien, il nous parlera tout simplement de l'actualité de son diocèse, mais également, bien sûr, des vœux de joyeux Noël. Et puis, on continuera dans ce temps de l'Avent avec le Père Pouchelu qui viendra nous parler de ce temps de l'Avent et cette octave de Noël juste après le jour de Noël. On entendra ça dans quelques instants. Et puis, tiens, on le ressort une fois par an, Yves Dubertrand, celui qui est venu faire pendant des années des chroniques Gascogne sur cette antenne. J'adore le texte qu'il avait trouvé. Et bien, on va replonger dans un très beau texte qui nous parlait des Noëls. Peut-être vous les anciens, vous avez connu où c'était pas la course aux jouets ou à beaucoup de marchandises ni d'un repas gastronomique, c'était tout simplement se retrouver en famille et c'était pour certains le jour de repos. Voilà, on entendra ce beau texte avec Yves Dubertrand dans un instant. Mais pour l'heure, on fait un point sur l'actualité et l'essentiel de l'actu de ce mercredi 24 décembre.
25 000 foyers encore touchés par les coupures de courant suite aux chutes de neige en Aveyron. Une voiture complètement cabossée après avoir foncé dans un barrage dans le Gers. Patrick Vigne devient le nouveau président de la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées. La circulation sur la RN20 a pu reprendre vers 17h15 après un accident survenu plus tôt dans la journée. Un jeune en détention provisoire dans le Tarn-et-Garonne suite à des suspicions de direction d'un point de deal. Les ultras de l'A64 continuent leur mobilisation malgré des discussions avec le préfet de la région sur la crise de la dermatose nodulaire. Quatre lotoirs emportent un titre international avec leur équipe de rugby à 7 à Dubaï.
Allez, l'actualité revient d'ici quelques minutes à 12h30 pour être précis. En attendant, on va replonger un peu dans cette ambiance de Noël. On écoute Dean Martin et puis on se retrouve avec Monseigneur Lacombe, l'archevêque d'Auch, dans quelques instants.
I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree, they won't mean a thing if you're not here with me. I'll have a blue Christmas, that's certain. And when that blue heartache starts hurting, you'll be doing all right with your Christmas of white. But I have a blue Christmas. You'll be doing all right with your Christmas of white, but I'll have a blue Christmas.
Présence à Bagnères-de-Luchon, 94 FM.
Vous avez été nombreux l'an dernier à soutenir l'Église catholique dans ses missions. À vous tous qui avez donné, merci. Afin que l'Église reste présente pour tous, sur le terrain, en particulier auprès des plus fragiles. Et pour qu'elle ait les moyens de poursuivre sa mission au service de la fraternité et de l'espérance dont nous avons tous besoin, votre don est précieux. L'Église ne vit que de dons. Pour soutenir toutes ces actions sur le terrain, donnez à donner.catholique.fr.
Allez, on va partir tout de suite pour le diocèse d'Auch. Anne-Rose Jankovic va s'entretenir avec Monseigneur Lacombe, l'archevêque du diocèse d'Auch.
Présence à Auch, 89.6.
Bonjour Monseigneur Bertrand Lacombe.
Bonjour Anne-Rose.
En ce 24 décembre, nous allons prendre des nouvelles de votre diocèse, le diocèse du Gers, le diocèse d'Auch. Et puis, on va essayer de voir comment, chez vous, on se prépare à la nativité, à la naissance du Christ. Alors, peut-être qu'on peut commencer par parler du monde agricole, parce que ce monde agricole qui est en crise aussi dans le Gers, bien sûr, il se prépare également à la naissance du Christ. Et la naissance du Christ a peut-être quelque chose à apporter en matière d'espérance pour ce monde agricole en crise.
Ben oui, je crois que vraiment notre pensée va vers nos amis agriculteurs. On voit bien la difficulté auxquelles ils sont confrontés, c'est cette récurrence. Ça revient. Et là, on a été heureux de savoir que tous les animaux qui étaient dans le Gers ont été vaccinés. C'est quand même un point qui est important, comme dans notre région. Mais les mesures de court terme, c'est important, mais il faudra des mesures de plus long terme et permettre aux agriculteurs d'avoir une certaine visibilité sur l'avenir, d'avoir une certaine confiance, d'être aussi entendus, respectés dans leur dignité pour pouvoir poursuivre cette belle mission de nourrir l'humanité, mais de nourrir aussi notre pays, parce que ça a une dimension économique aussi qui compte beaucoup. Et c'est ce premier aspect quand même. Préoccupons-nous plus régulièrement, plus concrètement, de manière plus stable du monde agricole qui est aux confins de plusieurs crises difficiles à analyser, mais on sent vraiment une lassitude face vraiment à une très belle profession, à un très beau métier. Donc nous pensons aux agriculteurs de manière très concrète, à travers des gestes aussi qui ont été posés dans les différentes paroisses, d'aller rencontrer des agriculteurs, d'aller sur site aussi.
Vous y êtes allé vous-même ? Vous êtes allé à leur rencontre vous-même ?
Oui, je suis allé soit dans des exploitations, soit sur tel ou tel rond-point à l'occasion d'un repas convivial qui était organisé à ce moment-là. C'est vraiment ce premier aspect que je veux souligner, je dirais existentiellement. Il y a des appels qu'il nous faut entendre. Mais nous le vivons aussi en chrétien, et ce que nous disons aux agriculteurs, avec la relation humaine, c'est aussi la vie spirituelle, le fait que nous sommes avec eux et que nous prions pour eux, que nous, quand nous nous rendons dans les exploitations, il y a aussi des moments de bénédiction qui ont été rappelés aussi à telle ou telle visite. Et puis maintenant que nous approchons de Noël, nous avons tous fait chez nous la crèche dans nos paroisses, peut-être sur nos parvis aussi, comme sur le parvis de la cathédrale d'Auch, il y a une crèche. Et quand on fait la crèche, on met de la mousse, on met du blé, on met une petite rivière, on met des gens qui travaillent la terre ou qui travaillent pour faire du pain, pour faire du vin. On a des animaux qui sont là, l'âne et le bœuf bien sûr, mais aussi des moutons, des agneaux, peut-être aussi un peu des animaux de basse-cour. Donc nous voyons tout ce monde végétal, c'est important, tout ce monde animal qui est là, et puis ce monde humain aussi, cette humanité qui est là, et qui, dans ses activités habituelles, prend le temps aussi de se tourner vers la crèche, prend le temps de se tourner vers Marie et Joseph, qui, n'ayant pas trouvé de place dans la maison commune, se retrouve dans la crèche, et nous allons commémorer une année de plus cette naissance de Jésus. Parmi cette vie, ce travail des gens, ce travail de la terre, ce travail des animaux, ce travail d'élevage. Et donc Noël a une connotation, je dirais, beaucoup plus concrète et existentielle par rapport au monde agricole d'abord, mais aussi par rapport à ce que nous faisons chacun. En pensant au monde agricole autour de la crèche, nous pensons à nos activités aussi que nous menons dans notre propre profession, dans notre famille, dans nos loisirs. Eh bien, Jésus vient naître aussi dans ces crèches-là. Jésus vient aussi nous rencontrer et naître. Naître dans nos espaces de vie. Donc, c'est vrai que Noël a un sens tout à fait particulier cette année pour nous qui vivons dans le monde agricole.
Alors, pour en revenir à la situation, alors on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, mais pas seulement, ces agriculteurs qui sont très en colère. Alors justement, comment cette naissance de ce petit enfant sur la paille fraîche, dans la crèche, tout pauvre, comment ils peuvent puiser de l'espérance dans cette naissance, puisque vous-même vous l'avez dit, finalement c'est redondant ces crises. On a l'impression que quand une crise s'éteint un petit peu, on attend la prochaine, et en fait ils sont dans un espèce de rouleau. Comment ils peuvent sortir de là, ces agriculteurs? Comment ils peuvent vraiment puiser dans la naissance de Jésus une espérance qui va durer?
Je crois que la situation des agriculteurs est variée tout de même.
Oui.
Il y en a qui peuvent vivre et
oui, là, on parle vraiment de ceux qui manifestent leur découragement.
Voilà, qui sont dans des situations plus difficiles, et particulièrement dans le Gers. L'élevage rapporte peut-être moins que dans d'autres lieux. Je crois que c'est vraiment par ces relations, par ces liens que nous pouvons avoir les uns avec les autres, relations personnelles d'abord. Même si certaines actions ont pu gêner la vie des personnes, je crois qu'il y a eu une grande compréhension quand même, et une proximité avec ce que vivaient nos frères et sœurs du monde agricole. Et puis, je crois qu'il nous faut prendre aussi ce temps de la célébration, ce temps de la fête qui est proposé maintenant pour Noël. Et puis, ne pas se dire après c'est terminé, on va passer à autre chose, mais pouvoir garder dans nos préoccupations, dans nos engagements, dans nos choix aussi de consommateurs. Je le rappelle dans le communiqué de presse que j'ai fait, comme consommateurs, nous pouvons faire aussi des choix et choisir.
Quand on parle du fait d'acheter comme vraiment étant un acte politique, quand on choisit ce qu'on achète, finalement.
On a quand même cette liberté d'acheter ce que nous voulons. Nous pouvons penser pour certains produits et à certaines occasions de nous dire, je fais le choix de soutenir des agriculteurs qui sont à proximité de chez moi, parce qu'ils ont des produits de qualité, parce qu'ils respectent un certain nombre de normes ou de qualité qui incombent à leurs produits. Et c'est vrai qu'on ne peut pas toujours le faire pour tout ce que nous consommons, et puis nous pouvons aussi produire des choses personnellement, mais c'est une attention à avoir dans notre budget de laisser une place à une consommation locale.
Je voudrais revenir sur les différentes prises de parole des évêques. Alors d'abord, la Conférence des évêques de France a publié un communiqué dans le cadre de cette crise agricole. Vous-même, Monseigneur Lacombe, vous en avez publié un. Monseigneur Mika a prié au sanctuaire de Lourdes avec les agriculteurs il y a quelques jours, ainsi qu'avec le recteur du sanctuaire de Lourdes, le père Michel Dauban. Et puis à côté, on a des gens qui quand même s'étonnent que les évêques manifestent comme ça leur soutien avec des personnes qui sont en colère. Comment on se positionne? Comment l'Église se positionne par rapport au blocage et aux différentes manières qu'ont les agriculteurs de manifester leur colère? Jusqu'à quand le pasteur et les pasteurs que vous êtes soutiennent, encouragent et disent « bon, je suis avec vous ».
Je crois que les liens, on peut les avoir tout le temps, quelles que soient les situations que nous vivons. Il y a vraiment une réalité éprouvante qui est vécue et nous devons nous sentir proches. Mais c'est vrai qu'on sera attentif et dans le Gers, peut-être un peu moins maintenant, nous en parlons, mais en tout cas jusqu'à ces derniers jours, il y a quand même une très grande unité d'action. Et quand il y a une unité d'action dans le monde agricole, on y va tous ensemble. Oui. Et là, il n'y a pas de questions à se poser. Quand on voit tout le monde agricole qui est uni, nous aussi, nous y allons ensemble. Alors, quand il y a des divergences, on est attentif. On est attentif à ce que disent les uns les autres, aux signes qu'ils veulent donner. On n'est pas obligé de soutenir des actions qui ne respectent pas le quotidien de la vie des personnes sur place. Mais quand il y a eu l'unanimité que nous avons connue jusque-là, c'était important d'être présent. Nous allons voir ce qui va se donner et ce qui va venir dans les jours qui viennent. Mais le critère de l'unanimité, il compte beaucoup.
Merci beaucoup, Mgr Bertrand Lacombe. Ce soir, c'est la nativité de l'enfant Jésus. C'est la bonne nouvelle qu'on a envie de partager avec le monde entier. Vous célébrerez la messe à la cathédrale d'Auch ce soir ?
Oui, je serai à la cathédrale d'Auch, que j'avais un peu quitté ces derniers temps, mais j'ai été heureux de retrouver dimanche la communauté chrétienne, à la fois le matin pour la messe, le soir pour la veillée de Noël de chant de Noël que nous avons eu, et donc pour les offices de cette fête de Noël. Et je souhaite vraiment à chacun des auditeurs de Radio Présence une très belle fête de Noël, que ce soit l'occasion pour nous de vivre cette proximité, de vivre ces liens avec ceux qui sont proches, peut-être aussi avec ceux qui sont un peu plus lointains, pour qu'ils puissent se rapprocher et pour qu'ils puissent vivre de cette joie de Noël.
Merci beaucoup, Monseigneur Bertrand.
Merci à vous.
Très bon Noël à vous.
Présence à Sévrac-le-Château, 102.3.
Quoi ton voisin?
Présence dans la vallée de la Garonne, 97.9.
Voilà, avec cette ambiance de Noël à l'instant, avec Noël, voici Noël sur Présence. On va prendre un petit peu un cours de catéchisme tout de suite.
Présence.
Avec Anne-Rose Jankovic et le père Pochulu, on parle de ce temps de l'Avent.
Bonjour père Baptiste Pochulu.
Bonjour Anne-Rose.
Nous vous retrouvons avec joie aujourd'hui alors que nous sommes en plein dans l'octave de Noël et que nous fêtons la Sainte Famille. Alors il y a encore pas mal de choses à dire sur cette liturgie qui nous a un peu accompagnés, bouleversés pendant tout le temps de l'Avent et qui continue de nous accompagner puisque déjà aujourd'hui on peut noter pas mal de changements.
changement. Hein. Depuis la nuit du 24 au 25 décembre, eh bien, la couleur a changé. Les quatre bougies sont allumées depuis dimanche dernier. Voilà, beaucoup de signes qui nous disent que ça y est, le Christ est là.
Le Christ est né, et puis surtout le retour du Gloria dans la nuit du 24 au 25, comme on se disait lors de notre première émission. Voilà, ce chant de joie qui a explosé, et on le voit à travers les différents évangiles qui peuvent être pris. Donc, pour la nativité, il y a plusieurs messes qui peuvent être célébrées. La messe de la veille, la messe de la nuit, la messe de l'aurore, la messe du jour. Enfin, voilà, il y a quand même... et à chaque fois, on change d'évangile. Donc on voit cette fête qui se déploie dans la liturgie, qui se déploie aussi à travers la richesse que la parole de Dieu nous en offre, avec... J'ai envie de dire, et vous évoquiez le changement de couleur, on passe du violet au blanc, l'évangile de la messe du jour de Noël, qui peut être un peu difficile à commenter peut-être, mais c'est le prologue de Saint Jean, la lumière qui vient percer les ténèbres. Et du coup, si on sans s'arrêter sur toute la le contenu théologique de ce prologue de Saint Jean, cette dimension de la lumière, vous voyez, vous avez la couronne de l'Avent, effectivement, elle était complète au quatrième dimanche de l'Avent. Là, on a la couleur blanche, on a le Gloria avec ces lumières qui s'allument aussi pendant la messe. Voilà, effectivement, cette lumière qui vient éclairer les nations, qui vient éclairer nos ténèbres.
Et puis, on a bien besoin d'un octave, de ces huit jours, pour savourer cette naissance de Jésus.
Effectivement, ces huit jours qui permettent de déployer encore plus, d'enraciner, peut-être, on l'évoquait au troisième dimanche de l'Avent, cette Gaudete, ce dimanche de la joie, voilà, du réjouissez-vous, cette joie de Noël qui peut s'enraciner chaque jour un peu plus pendant cette octave, voilà, de pouvoir chaque jour être pleinement pris dans cette joie de Noël, de la naissance du Sauveur.
Voilà, de prendre le temps de se laisser saisir par Dieu.
Tout à fait.
Aujourd'hui, c'est aussi le dimanche de la Sainte Famille, et donc c'est important aussi de le souligner, puisque là, il y a vraiment les figures de Joseph, Marie et bien sûr l'enfant Jésus, qui sont tous les trois ensemble pour nous signifier quelque chose.
Effectivement, que ça soit l'octave, que ça soit le temps de Noël d'une manière plus développée, on a l'image de cette famille rassemblée à Bethléem, enfin voilà, autour de cet enfant nouveau-né, voilà, et cette image, cette figure de la Sainte Famille qui doit parler à chacun d'entre nous d'une certaine manière, qui doit parler de tout particulièrement à chacune de nos familles. Enfin, voilà, quand on célèbre quand on prend au missel la messe pour la famille, les références à la Sainte Famille sont permanentes. Mmh. Voilà, d'être envoyé à ce modèle familial qu'est la Sainte Famille pour pouvoir bien nous-mêmes dans nos familles y puiser quelque chose pour notre vie familiale. Et alors, vie familiale, peut-être même nos vies communautaires. En Église, de trouver là, dans ce modèle de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph, les ressources pour pouvoir vivre nous aussi aujourd'hui.
L'octave de Noël, ça n'est pas le temps de Noël, le temps de Noël dure jusqu'au 2 février.
Alors ça, c'est dans l'ancien, ça c'est avant la réforme liturgique, voilà.
Aujourd'hui, c'est aussi une question qui revient chaque année, parce que derrière, il y a encore une fois la question de la crèche. Est-ce qu'on laisse la crèche jusqu'au 2 février ou pas? Tout ça est lié.
Donc le 2 février, présentation du Seigneur au Temple, 40 jours après Noël. C'est pas que la fête de la Chandeleur, effectivement, c'était dans l'ancien calendrier liturgique, c'était la fin du temps de Noël. Aujourd'hui, le temps de Noël s'arrête à la fête du baptême du Seigneur, dont la date change un peu chaque année en fonction de comment Noël est tombé, et comment tombe à la fois la Sainte Famille et aussi le dimanche de l'Épiphanie. Donc c'est là que se termine. Donc le temps de Noël, c'est ça. De Noël jusqu'au baptême du Seigneur. Ce temps, il dure entre, on va dire, 15 jours et 20 jours. Voilà. Alors que l'octave, c'est vraiment les 8 jours qui suivent Noël.
Merci de nous avoir suivis, Père Baptiste Pochelu. C'est la fin de cette émission. C'est aussi dans quelques jours la fin de l'année jubilaire de l'espérance, qui se terminera le dimanche prochain, jour de l'Épiphanie. Alors avant de vous quitter, j'aimerais bien vous demander à vous, quelle est votre espérance, Père Baptiste Pochelu, ou peut-être qu'est-ce que vous allez retenir de cette année jubilaire ?
Alors, mon espérance, c'est celle que Saint Philippe Néri, ce prêtre du XVIe siècle à Rome, exprimait de manière admirable le paradis.
Tout simplement.
Tout simplement.
Merci beaucoup, Père Baptiste Pochelu.
Merci, Anne-Rose.
Radio Présence à Pau, 96. Et merci bien sûr aussi à Anne-Rose Jankovic. On refait un point sur l'actualité avec aujourd'hui Victor Vignier de l'École de journalisme de Toulouse.
Bonjour, le département de l'Aveyron a connu d'importantes chutes de neige. Hier, jusqu'à 25 000 foyers étaient touchés par des coupures d'électricité. 150 agents d'Enedis sont mobilisés pour réparer le problème. Les intempéries rendent compliqué l'accès pour établir le courant partout. Hier, dans le Gers, une voiture finit complètement cabossée après avoir foncé dans un barrage d'agriculteurs. La D1124 à Auch était le théâtre d'actions multiples. Des pneus, du lisier et de la paille ont été déposés sur la route. La voiture se serait faite surprendre par le barrage. Patrick Vigne devient le nouveau président de la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Après la condamnation de Gérard Trémège, un jeu de chaises musicales s'est mis en place. André Doubrère, nouvelle maire de Tarbes, devient première vice-présidente. Patrick Vigne est nommé suite au conseil communautaire réunissant 89 voix sur 113 possibles. Rebondissement sur la RN20, la route qui avait été fermée puis débloquée suite aux mobilisations des agriculteurs. Elle a été de nouveau fermée à la suite d'un accident au niveau de l'Hospitalet près Landor. La circulation a pu reprendre vers 17h15 sur cette route menant à Landor. Un jeune dealer est maintenu en détention provisoire dans le Tarn-et-Garonne. Le jeune homme de 19 ans est soupçonné de gérer une zone de deal à la Bastide-Saint-Pierre. Une arme de l'espèce, 1,4 kg de cannabis ou encore 70 g de cocaïne ont été retrouvés. Un autre jeune homme de 18 ans comparaissait lui aussi hier. Ce dernier est libéré sous contrôle judiciaire. Malgré des négociations...
Présence dans la cité mariale, 96.
Yves Dubertrand, bonjour.
Bonjour.
C'est Noël.
Oui.
Et vous avez décidé de nous parler aujourd'hui de ces Noëls d'autrefois, avec vous donc. Comment vivait-on Noël ? Vous avez, je crois, un joli texte pour illustrer.
Qui a été écrit par M. André Lagarde, qui s'appelle, c'est un texte sur de Noël en Gascogne, donc Noël chez nous, tout simplement. Mm-hmm. Et je l'ai lu à des amis, amis agriculteurs et tout ça, et ils me disaient, oui, c'était comme ça, c'était autrefois que ça se passait, du temps des grands-parents, des parents et tout ça. Et c'est un texte qui est poétique, qui est... Enfin, je vais vous le lire, vous le jugerez comme ça.
On va le lire doucement.
Voilà,
et puis,
et puis si on a besoin, on parlera un peu.
On expliquera certaines choses. Surtout
Noël d'autrefois. Et vous allez voir qu'il y a des traditions qui sont restées de nos jours. La grande fête était annoncée 9 jours à l'avance par une sonnerie stridente appelée Nadalet ou la Zaubetes. C'est le nom de la sonnerie. Nadalet, mot à mot, si vous traduisez, ça veut dire petit Noël et petite Zaube. Alors, bon, on le laisse en gascon, il vaut mieux pas. Je continue. Parfois, c'était les enfants de chœur qui étaient chargés d'éparpiller le chant joyeux des cloches jusqu'à la nuit de décembre. La nuit glacée de décembre.
Ah oui.
Parce que c'est pas chaud.
Et c'est vrai qu'à l'époque, il faisait beaucoup plus froid.
Exactement, oui.
Un Noël sans neige, ça n'existait pratiquement pas. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, un Noël avec neige, c'est rare.
C'est ceux qui faisaient la poésie de Noël aussi.
Oui, aussi.
La beauté de Noël.
Oui.
Et vous pouvez croire qu'ils y allaient de bon cœur. Les filles préparaient la crèche dans une chapelle de l'église. La verdure et la paille ne manquaient pas. Mais les personnages, la Vierge, Saint-Joseph, l'âne et le bœuf étaient de simples figures de carton. Pour Noël, chacun chez soi, dit le proverbe. Voilà pourquoi les serviteurs, les valets de ferme, les ouvriers qui ne travaillaient pas, avaient la permission de rentrer chez eux. La journée du 24 décembre se passait à nettoyer comme il faut les étables. Et le soir, les bœufs recevaient une bonne ration de foin. On disait qu'en ces temps anciens, ces braves bêtes, à l'heure de minuit, se mettaient à genoux pour prier notre Seigneur.
Ah tiens, c'est
ça fait partie des légendes, oh, des traditions. Joli, ouais. On disait aussi qu'elles avaient le pouvoir de parler entre elles. Mais malheur, à qui aurait voulu surprendre leurs paroles, il allait mourir subitement.
Voilà, on est toujours.
Voyez, il y a un mélange de chrétienté, puisqu'elle se prépare la fête de Noël, voyez tout ça, et un peu de peur ancestrale, de peur au sort. Vous voyez comme ça, les gens étaient partagés un peu entre les deux de ça. Et alors, voyez, on donnait Noël, c'est la fête de tout le monde. C'est la fête par excellence de la famille, c'est la paix dans le monde, c'est là où on essaye de vivre en paix au moins. On appelle bien ces fêtes-là la trêve des confiseurs aussi. Hein.
Oui.
Vous voyez, c'est la fête de Noël. Et les bêtes n'étaient pas oubliées.
Ça, c'est oui.
Oui.
Puisqu'il y avait une double ration, oui.
Et elles recevaient une ration supplémentaire de foin et tout ça. Et les tables étaient nettoyées. Parce que les bêtes, autrefois, il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait quelques-unes, mais ça représentait un capital, une richesse, et c'était un outil de travail, mais en même temps, les bêtes étaient considérées comme faisant partie de la famille.
Si d'accord, et oui, là on le voit bien.
Voilà.
Et donc à Noël, elles participaient à la fête à leur façon.
Elles participaient à la fête à leur façon, et on les soignait plus qu'à l'ordinaire, si vous voulez.
C'était magnifique.
Oui.
Et les gens que vous avez rencontrés disaient que c'était vrai
Au niveau des bêtes, oui, bon, oui. Certains, alors, on le faisait, ils le faisaient autrefois, tout ça. Et bon, maintenant, je ne sais pas, on le fera peut-être, puisque j'ai la chance, pas pour lui, mais de remplacer tous les soirs un ami, de donner à manger aux bêtes. Peut-être qu'à Noël, le soir de Noël, je leur donnerai un peu plus de foin en pensant au texte. Voilà, oui.
D'accord.
Autrefois, ça se passait comme ça, quoi.
Church.
Noël autrefois, c'est ce que nous sommes en train de voir avec vous, Yves et Dubertrand. Plongeons dans le passé. Nous avons vu que la préparation de Noël se faisait et que les bêtes dans les fermes n'étaient pas oubliées. Les tables étaient nettoyées et que les bêtes avaient une ration supplémentaire de deux fois le 24 décembre.
Exactement.
Nous allons continuer le très beau récit qui est tiré de quel livre ?
Et c'est pas un livre, c'est un texte de d'André Lagarde qui avait été publié dans un almanach gascon qui racontait les traditions de les Noëls d'autrefois telles qu'ils se vivaient, quoi. Vous voyez ?
D'accord. Donc là, nous sommes dans les tables avec les bêtes. Nous continuons.
Pendant que les bêtes se rassasiaient de nourriture, les hommes se contentaient d'un repas maigre. Ils mangeaient quelques pommes de terre cuites sous la cendre et ils buvaient de l'eau. Les repas, c'était le repas avant le réveillon, hein.
Oui.
À ce moment-là, commençait la longue veillée autour de la bûche de Noël, ce fameux morceau de bois réservé longtemps à l'avance pour cette nuit-là. Il devait brûler doucement sans s'éteindre jamais et durer ainsi jusqu'au premier de l'an. Et j'ai demandé si ça se faisait, on m'a dit, c'est vrai, autrefois, les anciens, ils réservaient un gros morceau de bois. Et bon, donc, vous voyez, il fallait attiser quand même tout ça, parce que quand même, ça devait être difficile et dur de faire durer.
Oui.
Mais si on le faisait durer, si au matin du premier de l'an, il y avait encore un tison de ce bois, enfin, je sais pas comment il retrouvait que c'était celui-là, mais peu importe la chose, c'était un gage de bonheur et de prospérité pour l'année.
Vous voyez, mais tiens, là aussi, on est dans la crainte ou dans
les coutumes, si vous voulez, les traditions. C'est un mélange de paganisme et de religion, quoi.
Oui.
Enfin, bon, c'est ça. L'homme, il est comme ça, il est superstitieux, mais ça ne l'empêche pas de croire, ça ne l'empêche pas de... Vous voyez, on est fait de... Bon. Et alors, pendant ce temps, les femmes filaient ou brodaient. Il n'y avait pas la télévision, heureusement. Et les hommes racontaient des contes d'autrefois ou chantaient des airs appropriés au moment. C'était l'époque des veillées, où on faisait les veillées. Pas seulement à Noël, mais un peu tous les soirs. On allait se voir dans les... Si, cela, pour faire les iroulades, les châtaignes, par exemple. Ça. Enfin... Tout était prétexte, si vous voulez,
à se rencontrer.
Autant à se rencontrer en hiver comme en été, etc. Alors, le temps passait vite et c'était l'heure de chausser les sabots bien remplis de paille pour aller à l'église. Le clic et le clac des sabots retentissaient dans l'air glacé. La lumière de la lanterne éclairait plus ou moins. Les gens des fermes se regroupaient autant qu'ils le pouvaient pour affronter la nuit, cette nuit qui, plus que les autres, les remplissait de crainte. Il faut s'imaginer un spectacle. Les gens, vous voyez, les villages, les hameaux, les villages, des gens qui se regroupent, qui sortent des fermes, famille par famille, et puis qui descendent avec ce qu'on appelait avec la lanterne.
Oui.
Hein, la lanterne, et puis ça devait être un côté très poétique, très très joli, très beau à voir. Et le temps enneigé, bien sûr, la neige et tout ça, vous voyez. Puis ils vont vers l'église, c'est quelque chose de très poétique et de très beau, quoi.
Ouais.
Maintenant, on y va en voiture, mais bon, autrefois, ils descendaient comme ça, à pied, quoi. On disait que cette nuit de Noël, les âmettes, les petites âmes, mot à mot, avaient la permission de quitter le purgatoire pour retourner à l'endroit où elles avaient vécu. Pour Noël, chacun chez soi.
Comme vous aviez dit.
C'est pour les âmettes que la lampe à huile continuait d'éclairer la grande cuisine déserte. C'est pour les âmettes qu'on avait rassemblé sur la table... couverte d'une grande nappe blanche, les restes du souper. On pensait à ce qui était dans l'au-delà, vous voyez. Et alors, eux aussi, ils avaient le droit d'être participés, d'être à la fête. Il y avait un lien, vous voyez, le lien entre l'au-delà et plus rapproché que maintenant entre nous. Bon, parce que pour eux, la mort, bon, c'était une vie, bon, c'est une, comme c'était pour une nous étape. Aussi, c'est une vie qui se continue ailleurs, de manière différente, mais proche, si vous voulez. C'est pas dans un univers qui est... C'était là, c'était... Donc, vous voyez, il y a un lien entre l'au-delà et la terre, quoi. Hein. C'est pour ça. Bon, et ils chantaient tout en cheminant, un peu pour se donner du courage, mais aussi parce qu'ils étaient contents. L'église, à son tour, résonnait de cantiques, de ces nadalets, les chants de Noël,
oui.
Chargés d'ans, dont les paroles simples et enfantines sont perdues maintenant pour toujours. Vous voyez ?
Ça, c'est vrai.
La messe était belle. On y distribuait un pain béni, savoureux, parfumé à l'anis. Les gens, une fois revenu de messe, se réchauffait les mains gelées à la flamme du tison. On préparait aussi un réveillon qui n'était guère copieux. Boudin noir si on avait tué le porc, gâteau préparé à la maison ou des merveilles. Mmh. Le tout accompagné du vin de maison. On mangeait aussi des macoles achetées à la sortie de messe. C'était des pâtisseries de campagne parfumées à l'anis et dorées à l'œuf. Mmh. Le lendemain, aussitôt éveillé, les enfants couraient à la cheminée, contents s'ils trouvaient dans les sabots une orange ou un petit Jésus en sucre de couleur rose. On est loin de, hein, des cadeaux, une multitude de cadeaux qu'ont les gosses, et puis bon, dont ils tiennent qu'à...
Quelques minutes.
Hein. Oui, quelques, oui, voilà. Et les jours de Noël, c'est vrai, les enfants, les petits, mais ça, tous les anciens vous le diront, hein. Une orange, alors, c'était le... Alors, je continue quand même pour finir, finis. Et le jour de Noël se passait en famille, à savourer les joies toutes simples que la pauvreté permettait, bonheur d'être ensemble, de manger mieux qu'à l'ordinaire, et de jouir d'un peu de repos. Et bien vite, le songe d'un temps meilleur traversait le cœur des hommes. Je trouve cette conclusion très belle.
Oui. Super, super texte.
Très belle.
Rappelez-nous, qui en est l'auteur ?
André Lagarde, un monsieur qui a écrit, c'est un texte que j'ai trouvé dans un almanach gascon.
Très bien.
Voilà.
Quel beau texte, Yves Dubertrand, vous nous avez lu.
Oui.
Magnifique texte.
Je l'aime beaucoup. Et je vais vous dire, ça fait plusieurs années que je l'ai, ce texte. Hein, donc, eh bien, chaque année, pour Noël, moi, à mes élèves, je leur lis ce Noël. pour qu'ils sachent, qu'ils voient un peu le côté poétique que ça avait autrefois, tout ça, et pour qu'ils sachent un peu la vie que menaient les gens autrefois quand même.
En fait, on voit bien dans ce texte que vous nous avez lu donc hier et avant-hier, tout l'esprit de Noël. L'esprit,
voilà.
L'esprit est là.
Voilà.
Rien n'est dû.
Voilà.
C'était un Noël simple, mais
oui,
qui pour eux prenait
toute une valeur.
Toute une valeur incroyable.
Pour eux, il y avait la valeur chrétienne que.
Et si puis on attendait
oui,
la naissance de Jésus,
oui,
et non
oui,
pas la venue du Père Noël.
Voilà, c'est ça.
Déjà
maintenant,
aussi,
on a tendance un peu à confondre l'inverse. Puis
écoutez, j'ai demandé à ma petite fille qui a 5 ans qu'est-ce que c'était Noël. Et elle me dit c'est le Père Noël qui vient amener les cadeaux.
Oui.
Et alors je lui dis il n'y a pas que ça. Mais aux enfants aujourd'hui, c'est ça.
Mais oui,
malheureusement.
Mais est-ce vraiment leur faute aussi? Parce que je pense, quand vous regardez la télévision, de plus en plus, écoutez, on était à la Toussaint, et même avant, c'est passé, vous regardez les publicités, mais c'est tous les jours qu'il y a du matraquage pour les gosses, pour des cadeaux de ceci, de cela, de ça, et on est toujours des fois des cadeaux un peu violents, des trucs comme ça. Enfin, c'est, comment voulez-vous que ces enfants, ils soient heureux? Les petits d'autrefois, moi je dis pas qu'ils étaient heureux parce qu'ils avaient une orange ou un petit Jésus en sucre, comme il est dit là-dedans. Non, mais ils n'attendaient pas autre chose, si vous voulez. Ils étaient heureux parce qu'il y avait la fête, une ambiance de fête. Ils suivaient les parents à l'église, le soir ils faisaient le réveillon, des trucs comme ça.
Voilà.
C'était leur joie, la joie et le plaisir d'être ensemble, même pour des petits, pour des gosses. L'ambiance familiale, la vie de famille.
Et dans le texte, vous avez marqué, vous avez dit quelque chose d'important, je pense, c'était une journée de repos. Ils ne devaient pas en avoir souvent avant.
De repos. Ben non, parce que bon, quand même, repos, entendons-nous bien, il y avait toujours les bêtes à faire manger.
Oui.
Comme ça. Mais enfin, bon, c'était une période où il y a eu une pause. C'était une trêve.
Donc on
et
était en famille.
Gens pouvaient un peu parler, penser ouais, à eux, pas être en famille, oui, se regrouper, être en famille, penser à eux et vivre d'une autre manière. Moi, je trouve là, je peux relire la dernière phrase, si vous voulez. Je la trouve très belle,
ouais,
cette dernière phrase, parce qu'elle dit la vérité. Et le jour de Noël se passait en famille, à savourer les joies toutes simples que la pauvreté permettait. Bonheur d'être ensemble, de manger mieux qu'à l'ordinaire et de jouir d'un peu de repos. Et bien vite, le songe d'un temps meilleur traversait le cœur des hommes.
Ça, c'est joli.
La pauvreté permettait. Je me demande si c'est pas ça, le bonheur, finalement. Si c'est joli de voir aussi des enfants... Je vais pas faire du prêchi-prêcha, mais c'est joli de voir les enfants qui sont heureux à la caisse, ça fait devant le sapin, devant la crèche, tout ça, mais surtout devant le sapin avec les cadeaux et tout ça. Ça fait plaisir aux parents, à tout le monde, ça.
Oui.
Mais dans ces Noëls d'autrefois, il y avait une pureté qu'on ne retrouvera plus.
Mmh. C'est vrai.
Et une sincérité que l'on ne retrouvera plus, certainement. À moins d'y revenir.
Oui, voilà. Il faut savoir aujourd'hui aussi
voilà,
que demain, donc demain
puis,
c'est Noël.
Et les Noël autrefois, bon, ils étaient pauvres maintenant.
Et personne n'était mis à l'écart à l'époque.
Personne n'était mis à l'écart, voilà ce que je veux dire justement maintenant, dans cette société de consommation où il n'y a pas tout à rejeter, mais je veux dire, il y a ceux qui auront tout et il y aura ceux qui auront rien. Et ça, c'est pas...
Non, c'est pas très joli.
C'est pas chrétien, c'est pas Noël.
Et penser aux personnes qui sont seules, les invités,
voilà,
c'est aussi déjà beaucoup.
Voilà,
c'est
voilà,
ça l'esprit
voilà,
de Noël. Ne laissez pas des personnes
oui,
seules
oui,
réveillonner
oui,
toutes
oui,
seules.
Oui, oui.
Ne laissez pas les gens seuls. Si vous avez quelqu'un seul, eh bien, invitez-la avec vous.
Voilà.
Une part de
c'est
plus, une part de moins, c'est
une
c'est
bonne chose, action.
Voilà.
Faisons comme
c'est ça l'esprit de Noël.
Comme faisaient les anciens pour les amètes. Ils mettaient la table, ils préparaient la table pendant qu'ils allaient à l'église. Et ben, les amètes étaient censées, c'est-à-dire les âmes du purgatoire, étaient censées revenir
voilà,
faire Noël et tout ça.
D'autres choses, vous
voilà,
avez aussi à nous
oui,
expliquer.
Oui, mais il y avait un rituel de Noël et de l'An Nouveau. Les pensées locales nous donnent, dit-on à cette occasion, que trait aux nuances climatiques. Oui, bon, tout le monde le connaît, ça, et même on le dit en français maintenant, mais autrefois ça se disait en gascon, hein, si vous voulez, ça vient, je pense, du gascon. Nada au balcou, pasque d'abettizou. Ça veut dire que Noël au balcon,
oui,
c'est-à-dire si vous faites beau à Noël, ça veut dire que vous serez à Pâques au tison, c'est-à-dire en train de tisonner, c'est-à-dire de chauffer.
Voilà.
Voilà.
Donc s'il faisait beau à Noël, souvent
voilà,
il allait
Pâques,
faire froid et mauvais
Pâques
à Pâques.
Et souvent, ça se vérifie, il faut être honnête. Ça se vérifie.
C'est une expression que beaucoup de gens disent encore.
Oui, oui.
En français, pas en gascon.
Et alors il y en a un autre dicton qui veut dire la même chose, un peu. Qui s'essoureille en adao, à Pâques brusle le sous-bouès. Ça veut dire qui s'ensoleille à Noël, à Pâques, il brûle son bois. Vous voyez ?
D'accord.
Toujours en matière climatique. Mais alors, une autre chose un peu plus différente, si vous voulez, le mariage, source de vie, pérennisation des codes sociaux et moraux, perpétuité de race, est souvent souligné avec force dans des dictons locaux. Ainsi, là c'est un rapport, vous allez voir pourquoi. Ainsi, lorsque la pie vient nicher dans le jardin, et lorsque la nuit d'Épiphanie, vous voyez, je pense à l'Épiphanie, c'est plus loin que Noël, mais enfin, oh, ça touche quand même la fête de Noël. Lorsque la nuit d'Épiphanie, entrant dans un poulailler, on entend une poule crier, c'est signe évident d'un hymen proche, c'est-à-dire d'un mariage et d'une union.
D'accord.
Si, voilà, c'était les dictons d'autrefois.
D'autrefois.
Voilà.
Spécial Noël, donc.
Spécial Noël, oui.
Yves Dubertrand, je pense que nous pouvons souhaiter à tous nos visiteurs de passer un très, très bon réveillon de Noël.
Oui, je leur souhaite de tout cœur qu'ils aient chaud au cœur et puis voilà.
Et ne pas oublier.
Et qu'ils aient la paix en eux.
Très bien.
Adichat et bonne estas. Bonne adao à tous.
Bon Noël à tous. Voilà. Au revoir.
Of a dear Savior's birth. Now long lay the world in sin and error pining till he appeared and the soul failed its worth. The thrilling hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, when Christ was born, oh, night, divine, oh, night, oh, night, divine.
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. When Christ was born, oh, night.
présence dans le Grand Toulouse, 97.9.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Les églises du monde entier se préparent à célébrer Noël, que ce soit en Terre Sainte ou ailleurs. La venue du Prince de la Paix est source de joie et d'espérance.